Chapitre 5 La maison secrète. Martha Numa entra dans une maison d'assez belle apparence. Il n'y a rien pour moi, demanda-t-il en passant devant la loge du concierge. Non, monsieur Durand, lui répondit-on. Bien, merci. Il monta jusqu'à l'entresol, ouvrit la porte et qu'il referma derrière moi. Un domestique était accouru au signal électrique mis en branle par la porte en s'ouvrant. C'était Firmin, un homme d'un certain âge, carré, puissant, qui porta machinalement la main à son front pour faire le salut militaire. Comme le chauffeur, ce domestique devait être un agent, faire partie de la brigade constituée par Martin Dumas, recruté par lui et dressé selon ses principes. Certes, il n'eût pas fait bon vouloir pénétrer de force dans cet appartement, gardé par ce pseudo valet de chambre, aux épaules d'athlète, aux mains énormes. Martin Numa avait loué cet appartement sous le nom vague de Durand. Il se donnait comme peintre paysagiste, allant souvent faire ses études, ses toiles en plein air, au loin. Nous le savons, nous l'avons suivi à Fontainebleau. Il séjournait, en effet, fort peu dans son petit appartement que gardait finalement le valet de chambre Hercule. Cet appartement se composait de 3 pièces seulement. La chambre à coucher, la salle à manger et un petit cabinet près de l'entrée où logeait Firmin comme un cerbère impitoyable. Mais il donnait sur un petit jardin, comme il s'en trouve encore dans ce quartier, que les maisons nouvelles n'ont pas tout à fait dégradé sous leur masse de pierre. Dans ce jardin fermé, enserré par les hautes maisons voisines, se trouvait l'atelier sous les arbres. En contournant une courte allée sablée qui serpentait dans le petit jardin, méticuleusement entretenu par Firmin, avec un soin, une propreté militaire, nous arrivâmes à la porte de l'atelier. Martin Numa tourna le loquet, nous pénétrâmes. Je connaissais également l'atelier pour y être déjà venu plusieurs fois. Martin Numa habitait, il est vrai, à côté de chez moi, rue Le Pic, mais c'est dans cet atelier, dans ce logis, qu'il venait parfois se reposer, se livrant à la peinture. Chez lui, dans son appartement officiel, en somme, que l'on connaissait, il était trop souvent dérangé par les curieux, les importuns, et il se trouvait trop aisément à la merci d'un coup de main audacieux. Personne d'ailleurs, ou du moins les chefs de la police seuls et moi, unique amis, connaissions ce refuge, de même que celui des environs des Halles. Il pouvait, ici, dans cet atelier, se livrer à des études non pas seulement de peinture, mais à des travaux concernant sa profession. Il y avait établi un laboratoire de chimie et une chambre noire pour la photographie. L'atelier était, pour ainsi dire, inviolable. Il eût fallu, pour y pénétrer, tomber des croisées des maisons voisines, ce qui n'était pas aisé, ou passer par le petit appartement, par l'entresol, que gardait Firmin. La tentative eût été plutôt dangereuse. Les murs de l'atelier étaient épais et, sous prétexte d'humidité, redoutables pour les tableaux. Martin Numa, ou plutôt le peintre Durand, les avait fait revêtir entièrement de feuilles de tôle. Quand il eut fermé sur moi la porte, Martin Numa s'écria « Ah, oh, il fait bon ici !» Firmin, en effet, avait allumé le poêle et une douce chaleur régnait dans la pièce. « Eh bien, nous allons pouvoir travailler, car vous allez m'aider, mon cher Courville. Oh, avec le plus grand plaisir !» Martin Numa sortit alors avec précaution de sa poche la précieuse boîte contenant le gant énigmatique. Il le déposa sur la table, enleva sa redingote, défit son col, ses manchettes, et revêtit une longue blouse noire. Il se dirigea vers une vieille commode Louis XV à ventre cintré, ornementée de jolies ciselures de mi-cuivre. Du tiroir supérieur, il tira une petite boîte en fer qu'il ouvrit doucement. La boîte était pleine d'une poudre blanche, luisante. « Talc !» me dit-il seulement, tandis qu'avec le plus grand intérêt, je suivais ses mouvements. Il arracha ensuite d'un rouleau une touffe de coton hydrophile qu'il posa sur la poudre de talc. Lorsqu'il prit le gant noir dans sa boîte, il le prit, et il souffla dedans pour le gonfler et lui donner l'apparence qu'il aurait sur une main. Ce gant, ainsi soufflé, il le suspendit par une pointe à dessin, autrement dit une punaise, à une planche posée sur un chevalet à peindre. Avec des bruxelles de légères pincettes d'acier, il arracha méticuleusement les fils de coton qui se trouvaient retenus sur le gant. Enfin, prenant dans la boîte de talc la touffe de coton, il la passa légèrement sur le gant, saupoudrant la place se trouvant un peu au-dessus de sa main, entre le pouce et la racine de l'index. « Comprenez-vous, Courville ?» me demanda-t-il. « Ah oui, je commence à comprendre. Le gant porte une empreinte. Parfaitement. J'ai besoin d'une empreinte de pouce, comme il est plus que difficile de dire aux gens de me donner l'empreinte de leur pouce, je suis forcé de la prendre sans qu'ils s'en aperçoivent. Qu'ai-je fait? J'ai enduit le gant de cire à modeler. » Oui, vous avez revêtu votre gant, poursuivis-je, et quand le marquis Santucci vous serra la main, vous avez, avec votre main gauche, pressé sur son pouce droit, qui ainsi est venu se poser fortement sur la partie du gant enduite de cire à modelage, et vous avez pris et emporté l'empreinte du pouce du marquis Santucci. Mais tout simplement, je ne me suis pas à cacher de vous, mon cher Courville, mais j'espère que lorsque j'opérerai dans la foule, personne autre que vous n'a pu s'apercevoir de mon stratagème. Oh non, 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 personne, j'y faisais attention. Personne n'a vu. Bien, alors maintenant, opérons, opérons nous-mêmes. Il disposa son appareil à photographie, mit au point le gant, fit deux clichés. Accordez-moi quelques minutes, me dit-il. Vous avez des cartons pleins de gravures, des cigarettes dans cette boîte. Je vais développer des plaques. Nous pourrons vérifier ensuite. Il passa dans sa chambre noire et je l'entendis bientôt me crier « Oh, c'est parfait, très bienvenu !» Peu après, il reparaissait. « Aidez-moi, mon cher ami, à faire la nuit ici. Tirons les rideaux. Préparons tout pendant que les plaques sont dans un bain de fixage. » En quelques minutes, grâce à un système très ingénieux de poulies et de cordes d'appel, sous les vitres de l'atelier s'étendaient de longs et épais voiles noirs que le jour, voire le soleil, n'arrivait pas à percer. Pendant ce temps, je crus pouvoir me permettre de lui demander « Mais pour avoir ainsi pris l'empreinte du pouce du marquis, il faut, selon toute évidence, que vos soupçons se soient portés sur celui qui devait être le gendre de M. Castanier. » Martin Dumas eut un froncement de sourcils. Ma question, évidemment, ne lui plaisait qu'à moitié. « Mon cher, dit-il au bout d'un court moment, vous connaissez ma façon d'opérer. » Je n'ose pas dire que je ne marche que sur des certitudes, mais je redoute, comme la peste, l'influence néfaste des soupçons, des préventions. Un policier, un juge doivent être au-dessus de ses sentiments, de ses sensations plutôt. Il faut que leur enquête, leur jugement repose non sur le sable des suppositions, des racontars de témoins ou des simili-preuves, mais sur les fondations en roc de l'analyse et de la déduction. Après un moment de silence, il ajouta: Mais revenons au marquis de Santucci. Vous me demandez si je le crois coupable. Ben, vous le soupçonnez tout au moins, puisque vous prenez l'empreinte de son pouce. Mais je n'ai ni à le soupçonner, ni à le proclamer innocent. Mon devoir est d'amener devant les juges l'auteur de cet abominable assassinat, de déchirer le voile qui couvre le mystère de cette passionnante affaire. Je cherche. Et dans le champ de mes recherches se trouve au premier plan le marquis di Santucci. À tout seigneur, tout honneur, je commence par lui. Mais quel intérêt, je me le demande, puisque dans tout crime, comme dans toute affaire d'ailleurs, il faut voir l'intérêt qui la suggère. Quel intérêt, dis-je, le marquis di Carmine Santucci peut-il avoir à tuer mademoiselle Irma Castagnier, sa fiancée, monsieur Castagnier, son futur beau-père. Mais si en apparence le marquis Primo di Carducci, immensément riche, fiancé à une dot superbe, entrant dans une famille de millionnaires, si le marquis de Santucci n'a pas de raison plausible de commettre un crime, il est une autre personne à qui cet assassinat profite absolument. Qui donc? Charles Castagnier. Le fils? M'écriai-je. Le fils, parfaitement. Or, remarquez ceci. Charles Castagnier, si l'on de famille noble comme celle de son beau-frère, mais du moins aussi riche, Charles Castagnier était aux abois. Charles Castagnier s'est autrefois rendu coupable d'un vol. Charles Castagnier est venu hier demander de l'argent chez ses parents, proférer des menaces, parler même de malheur. Puis il a disparu, il a pris la fuite. En levant, oui, la fille du vieux caissier, du plus vieil ami de son père. Monsieur Borisson, qui va, pour double raison, maintenant, le couvrir, tâcher de pallier sa faute, d'atténuer son crime. Alors vous croyez que Charles Castagnier. Mes soupçons ne se portent pas plus sur Charles Castagnier, à qui cependant ce crime, ne fût-ce que comme héritier, profite grandement. Si, bien entendu, il n'est pas reconnu coupable, que sur le marquis de Santucci, qui, lui, logiquement, ne trouve aucun intérêt dans cette douloureuse affaire. Et Martin Numa ajouta: C'est un joli problème qui se pose. Je cherche la solution. En mathématiques, on arrive à un résultat par un moyen qu'on appelle l'absurde. En police, stratagème est dangereux. Je procède de préférence par la déduction logique. Vous avez déjà quelques bases. Oh, si ce que nous possédons peut s'appeler ainsi. Des empreintes de doigts, un gant, des rainures de bottines. Oui, à tout autre qu'à vous, en effet, ces bases paraîtraient bien fragiles. Martin Dumas sourit, puis, se dirigeant vers une commode, il ouvrit un tiroir et en sortit un moulage d'emplâtre qu'il me tendit. Je pris avec précaution le moulage d'emplâtre et le regardai, fortement intrigué, ne comprenant pas. Vous m'avez accompagné, reprit Martin Dumas, dans mon excursion rue d'Amsterdam. Elle ne m'a pas donné le résultat que je pouvais espérer. Mais elle n'a pas été non plus tout à fait infructueuse. J'ai trouvé un gant. Oui, je me souviens. Certes, oh, j'espérais trouver autre chose de plus précis. Découvrir sur un objet quelconque une empreinte de pouce. Mais justement, c'était un jour de zèle de la femme de ménage du jeune homme. Tout était nettoyé, essuyé. La découverte de ce gant m'a cependant fait plaisir. Et vous avez pu vous servir de cette pièce. Et comme vous voyez, j'ai soufflé dedans pour le grand gonfler, lui donner la forme qu'il aurait si une main s'y trouvait contenue. Dans cette sorte de moule, j'ai roulé avec soin du plâtre à modeler, comme font les fabricants de statuettes. J'ai obtenu un moulage. Voici la main de Charles Castanier, presque aussi fidèlement que j'avais pris l'empreinte de la main même du fils du banquier. Martin Dumas m'enleva le moulage et le plaça sur une table. Ce moulage va vous causer quelque étonnement, me dit-il. Est-ce que vous avez pu obtenir des lignes, des signes? Hélas, non, je n'ai pas de détails. La peau du gant ne pouvait les renfermer. Mais j'ai quelque chose d'assez intéressant. D'une chemise de carton, il tira une feuille de papier au ferro-prussiate, contenant en bleu, sur fond blanc, un dessin, un pouce. C'est la reproduction photographique, me dit Martin Dumas, de l'empreinte du pouce que nous avons trouvée chez M. Castanier, le père de Charles. Tout en parlant, il écartait les branches d'un compas qu'il venait de prendre sur la table. Maintenant, regardez bien, continua-t-il. Il mesura, mensura, dit-on plutôt, avec soin la largeur du pouce de la main de plâtre, et reporta les deux pointes du compas sur l'image du papier au ferro-prussiate. Regardez, me dit-il. Je ne pus retenir un cri d'épouvante, d'horreur. Oui, fit alors Martin Dumas. L'empreinte laissée par l'assassin sur le bureau du banquier et le pouce de Charles Castanier ont la même dimension. Chapitre 6. Ce qu'on lit dans une main. Martin Dumas me regardait en souriant. Il reprit. Oui, mon cher Courville. Oui, le pouce de Charles Castanier et celui de l'assassin du banquier de Mademoiselle Irma Castanier ont les mêmes dimensions. Je m'écriai alors. Oui, mais d'où la conclusion facile. L'assassin de M. Castanier et de sa fille est le propre fils du banquier, le propre frère de la fiancée du marquis de Santucci. À première vue, cela semble indubitable, n'est-ce pas? Oui, assurément. Mais à la seconde vue, mon cher Courville, cela devient moins certain. Comment cela? Oui, ce serait indéniable si nous possédions non seulement les dimensions du pouce de Charles Castanier, mais aussi les sinuosités, les dessins de ce pouce. Hélas, nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas les avoir. Le gant ne pouvait nous les révéler. Or, devons-nous nous contenter du simple volume de ce pouce pour établir la culpabilité définitive? Non, évidemment. Ah, si nous avions concordance absolue, dimension et dessin, l'hésitation ne serait même pas possible une seconde. Notre devoir nous obligerait à courir immédiatement après le fils du banquier. Mais encore une fois, nous n'avons qu'une moitié de la solution de cet angoissant problème. Or, une solution, pour être exacte, valable, demande la totalité, l'absolu. Tout en parlant, Martin Dumas avait remis dans le tiroir de sa commode le moulage de la main de Charles Castanier. Cette constatation, mon cher Courville, reprit-il, cette constatation, qui, je dois vous le déclarer, m'a également très grandement ému, quand avant vous, je l'ai faite pour la première fois, vous a fait oublier que nous sommes venus ici non pas précisément pour mensurer le pouce de Charles Castanier, mais plutôt pour étudier le pouce du marquis Primo di Carmine Santucci. Oui, en effet, j'ai été saisi et j'oubliais l'empreinte du gant ce matin. Oh, j'y songe, moi, fort heureusement. Martin Dumas pénétra dans son cabinet noir et reparut peu après, tenant en main les deux plaques. Il les posa sur un égouttoir. Puis il disposa son appareil d'agrandissement, projeta sur le mur un disque lumineux. Ensuite, il prit sur l'égouttoir les plaques, les coupa avec un diamant de vitrier à une certaine dimension et en glissa une, choisie au hasard, dans la rainure du châssis à glissière de son appareil d'agrandissement. Dans cette rainure se trouvait déjà un cliché. « C'est l'empreinte du doigt relevé sur le bloc-notes, me dit-il. J'ai donné la même dimension à celle prise ce matin sur mon gant. Nous allons comparer, étudier, voir. » La lanterne, ou plutôt le disque lumineux, bien au point, ayant toute sa valeur de clarté et de précision, nous montra deux empreintes noires. Dans ces empreintes se détachaient très nettement en blanc les lignes, les sinuosités des pouces. Martin Dumas, alors, se rapprocha de l'écran sur lequel se projetaient les deux clichés. Silencieux, avec son souci habituel, il étudia, compara, analysa les deux empreintes. « Pas la même, » dit-il enfin. « Oh non, pas la même. » « Ah, alors vous voyez que ce n'est pas la même pouce qui a fourni ces empreintes ?»« Oui, très clairement, oui, ce n'est pas le même pouce. Et cependant... » De nouveau, il se mit à étudier les empreintes projetées. « Il y a, » fit-il au bout d'un moment d'examen assez long, « il y a une chose qui me frappe dans ces empreintes. Elles ont comme un air de famille, si je puis m'exprimer ainsi. » « Bon, cela vous paraît très subtil, mon cher. Cependant, cela est très marqué pour un œil exercé. À première vue, j'en disconviens pas. Pour le profane, tous les pouces se ressemblent et toutes les lignes des doigts sont des lignes de doigts sans grande différence. En effet, j'avoue qu'en présence de celle-ci, je ne saurais pas faire grande distinction. » Oh, pour établir les points de comparaison, voir les différences, il aurait fallu, mon cher Courville, faire comme moi de longues et patientes études sur des milliers de doigts. En ce cas, il en est comme de tout dans la vie. Pour qui n'est pas amateur de chevaux, connaisseur, un cheval est un cheval comme un autre. Très juste. Oui, mon cher, ces lignes longues qui ont l'air de faire le tour de ses pouces. Elles dénotent des mains que nous appelons aristocratiques en chiromancie, des mains n'ayant pas l'habitude du travail manuel pénible, des mains de race que le repos, le luxe ont affinées. Vous savez que plus une race se perfectionne, s'affine, plus elle s'allonge, perd de sa carrure, de sa masse et s'idéalise, pour ainsi dire. Oui, parfaitement. Les membres d'ouvriers, par exemple, sont carrés, trapus, plus forts, moins fins d'attache. Leurs mains rappellent les masses, les marteaux, les instruments de travail. Leurs pieds sont plus lourds, plus gros, de même que les membres des chevaux de trait et des percherons, entre autres, sont loin de la finesse des sabots et des pieds frêles des chevaux de course. « Parfait! Eh bien, ces modifications qui se font à la longue et qui demandent des générations ne s'arrêtent pas au général, elles atteignent le détail, lui aussi. Avec la finesse du poignet, la longueur de la main, l'allongement des doigts, apparaissent la ténuité et la continuité des lignes. Nous avons donc sous les yeux 2 pouces de race. Il est clair comme le jour, absolument indiscutable, que ces empreintes ont été faites par 2 pouces différents, quoique de même race, de même origine, de même famille. Cependant, l'empreinte de droite, c'est-à-dire celle que nous avons prise ce matin, celle du marquis Primo di Carmine d'Antucci, me paraît bien moins fine, moins aristocrate que celle du bloc-notes. Voyez, mon cher, les traits sont moins longs, plus coupés, plus hauts. On dirait qu'il y a un mélange de 2 races, la race aristocratique et la race plébéienne. L'étape de perfectionnement n'est pas accomplie. Il n'y a pas amalgame complet, mais union simplement. J'ai dans mes dossiers des empreintes de ce genre, des doigts de bâtard, par exemple, fils de grand seigneur et d'une laveuse, doigts de fils légitime, mais également de noblesse, indiscutable, dont le père, pour redorer un blason éteint, a épousé la fille d'un quelconque marchand enrichi. Oui, en somme, l'empreinte de l'assassin est celle d'un gentilhomme et celle du marquis Santucci, d'un demi-plébéien. Mon cher Numa, lui dis-je, nous sommes heureusement seuls dans cet atelier. Personne autre que moi, qui vous connaît, vous apprécie, a foi en vous, n'entend vos paroles, car vous eussiez provoqué des cris d'incrédulité, des haussements d'épaules. Et on m'eût traité de sorcier, de fou, ou, à ce qui est plus à la mode, de bluffeur, de fumiste. Mais tout ce que je vous dis repose sur des données parfaites, certaines. Pour acquérir cette connaissance, il faut un long et patient travail. C'est une science. Des plus difficiles, des plus utiles aussi. Peut-être, parmi ceux qui, en vous écoutant, riraient de vos théories, il s'en trouverait bon nombre qui s'empresseraient d'avoir recours à ce dont ils se moquaient tout d'abord, si le malheur, le crime, frappait à leur porte. « Peut-être, » fit Martin Numa d'un ton sombre, « peut-être. » Il se remit à étudier les empreintes de doigts, changea de place les clichés, les plaça l'un sur l'autre, se livra de nouvelles comparaisons, puis, rallumant les épaules électriques, il éteignit sa lampe d'agrandissement. « Bon, voilà assez, dit-il, nous en savons suffisamment. » Le problème se pose de nouveau avec un énoncé de plus en plus compliqué. Il faudrait pouvoir avoir une empreinte du pouce de Charles Castagnier. Mon cher, vous demandez l'impossible. Donc, oh, laissons cela de côté. Vous oubliez qu'à défaut de main, nous avons un bout de pied. Ah oui, la rognure de cuir verni. Parfaitement. Reste à trouver celui qui possède une bottine détériorée par le pied du bureau du banquier Castagnier. Puis, brusquement, « Bon, et maintenant ne perdons pas de temps, nous n'avons plus rien à faire ici. Et d'ailleurs, d'autres événements nous attendent. Allons-nous-en. » Bien, partons. Chapitre 7. Le signe au mur. Il éclata de rire tout à coup. « Ne croyez pas, mon cher Courville, que vous allez sortir comme ça d'ici de chez moi. »« Comment sortir comme ça? Que voulez-vous dire? Mais dans cette tenue, ce serait la pire folie. »« Je ne comprends pas. Mais vous ne vous souvenez donc pas des précautions que nous avons dû prendre pour entrer ici ?»« En effet. » Martin Numa disparut par une portière. Au bout de quelques instants, il reparut, tenant en ses bras un paquet de vêtements. « Bon, nous sommes à peu près de la même taille, » fit-il. « Vous allez revêtir ce costume pendant que je passerai celui-ci. » Le déguisement fut promptement accompli. Il n'était rien moins que compliqué. Il se composait d'une grande blouse bleue qui nous descendait par-dessus nos habits jusqu'à mi-jambe et d'une casquette noire avec les lettres « Gaz ». Martin Dumas me donna une petite boîte de zinc et lui se chargea d'un pliant et d'un énorme soufflet. À ce moment, une objection se présenta à mon esprit. Puisque Martin Dumas croyait que cet homme brun l'espionnait, puisqu'il avait la certitude qu'on l'épiait et qu'il ne devinait pas la raison, pourquoi n'arrêterait-il pas ce promeneur qui, tout à l'heure, nous avait alarmés? Je lui fis part de ma pensée. « Mais vous avez, lui dis-je, essayé de prendre dans une de vos voitures l'homme brun de la rue d'Amsterdam, et cet homme vous a échappé. » « C'est vrai, et puis... » « Mais dans cette rue, devant cette porte, se trouve un autre homme brun, que vous croyez un compère, un associé du premier, remplissant contre vous la même surveillance mystérieuse. Si vous l'arrêtiez, vous l'interrogeriez, vous sauriez enfin à quoi vous en tenir. Mais pourquoi ne le faites-vous pas ?»« Mon cher Courville, me dit Martin Dumas, cette question est celle qui viendrait à l'esprit de tout le monde, connaissant notre aventure. Cependant, cher ami, sans reproche, vous devriez savoir que si je n'arrête pas cet homme, c'est que je ne dois pas le faire. Pardonnez-moi de vous avoir posé cette question oiseuse. Non, vous avez bien fait. Laissez-moi vous répondre. Ces deux rencontres en apparence identiques sont au fond très différentes. L'homme au taxi, je pouvais sans scrupule le prendre. Pourquoi? Parce qu'en montant dans son taxi, il n'avait pas donné l'adresse au chauffeur, mais seulement promis un bon pourboire à condition de me suivre, de ne pas me perdre. J'avais donc le droit de demander à cet homme pourquoi il me suivait et ce qu'il me voulait. Oui, très juste. Mais aujourd'hui, ce nouvel espion est dans la rue. La rue est à tout le monde. Comment prouver qu'il m'épie? Il m'est, croyez-le bien, très facile de le faire prendre, mais comment justifier sa capture? Si cet homme est, comme je le présume, un étranger, il en appellera d'autant plus fort à son consul, qui se sentira en faute sans que je puisse le préciser. Cela me mettrait une vilaine affaire, compliquée, inutile, sur les bras. De plus, je ferai connaître à ceux pour qui cet homme travaille précisément ce qu'il faut qu'ils ignorent. D'abord que je demeure effectivement dans cette rue, ensuite que je redoute leur surveillance. Mais vous avez raison. Comme je me dirigeais vers la porte de l'atelier donnant sur le jardin par laquelle nous étions entrés, Martin Dumas me cria du fond de la pièce. « Où allez-vous? Mais ne sortons-nous pas? Sans doute, mais depuis quand avez-vous vu un homme rentrer comme peintre chez lui en sortir en gazier? Venez donc par ici, il ne faut pas qu'on nous voie partir. » Je suivis donc Martin Dumas. Au fond de l'atelier se trouvait un escalier en bois, énorme, massif, jolie pièce artistique qui conduisait à une galerie formant, grâce à un jeu de tenture, une sorte de petite chambre. Nous entrâmes dans cette petite chambre. Ses murs étaient tendus d'une sorte de papier gris-bleu imitant la peluche. À ces murs se trouvaient, comme dans tous les logis de peintres, accrochés des modelages en plâtre, des torses, des bras. Sur les consoles, on voyait les écorchés classiques, puis un peu partout, des tableaux, des dessins, des gravures et des panoplies d'armes, d'objets divers exotiques, des bibelots de toutes sortes. Dans un coin, un divan-lit. et au-dessus de ce divan-lit, trois tableaux encadrés, pour ainsi dire, par des sabres, des épées, des vieux fusils et des pipes à longs tuyaux. Martin Numa s'approcha de la muraille, passa sa main sous un des tableaux, pressa, et je vis les tableaux, les armes, les pipes s'avancer doucement en avant de la paroi les supportant et tourner comme s'ils avaient été cloués à une porte qui s'ouvrait. Une ouverture se montra. « Passez, me dit Martin Numa, montez sur le lit. » J'obéis. Il s'engagea aussi après moi dans l'ouverture et derrière lui ramena le panneau qui nous avait livré passage. Je compris la raison de ces armes longues, de ces immenses tuyaux de pipe. Les rainures de la porte secrète correspondaient avec ces lignes, ces ombres. Impossible de les découvrir, même en y regardant de près. Nous nous trouvions maintenant dans une sorte de tambour où nous avions du mal à tenir tous deux. « Laissez-vous, me dit Martin Numa, pliez-vous, pour ainsi dire, en deux. » J'exécutai aussitôt cette manœuvre. Martin Numa me poussa encore de la main pour m'aplatir davantage et il me dit « Regardez maintenant au-dessus de votre tête. » Lui aussi s'était accroupi. Au-dessus de nous, trois lames de sabre venaient de surgir de la muraille et se tenaient à hauteur du ventre d'un homme, faisant un triangle de pointes assez espacées pour ne pas transpercer, assez rapprochées pour ne pas permettre un mouvement, pour paralyser, pour arrêter toute tentative de fuite. « Qui entrerait ici, me dit Martin Numa, sans connaître le secret ?» tomberait comme vous, en douter, en un piège dont il ne pourrait échapper. En même temps que ces lames apparaissent, une sonnerie avertit mon fidèle valet de chambre, qui accourrait à la première alarme, cueillir l'indiscret. L'entrée de l'atelier est aussi bien gardée. Qui pénétrerait dans le jardin n'en sortirait pas sans ma permission. Martin Numa appuya sur un bouton. Les lames disparurent dans la muraille et une porte s'ouvrit en face de nous. « Passez sans crainte, » me dit Martin Numa, « il n'y a plus de sabre, mais faites bien attention, posez bien le pied sur les échelons. » Par cette porte, guère plus large qu'un vasistas, je m'engageais. La recommandation était bonne, d'autant que les prétendus échelons était constitué par trois ou quatre caisses en bois, mises comme au rebut dans un angle de la pièce dans laquelle nous pénétrions. « C'est l'escalier, » fit Martin Numa. « Il manque pas de pittoresque. » Nous nous trouvions dans une pièce mansardée, encombrée de vieilles malles, de meubles cassés, de linge en tas, avec quelques loques pendues à des ficelles le long de ce grenier où l'on ne semblait pas venir souvent. Je remarquai toutefois que la porte était renforcée de ce côté par des barres de fer. Martin Numa appuya d'une certaine façon sur le loquet et la porte, fort épaisse, s'ouvrit facilement. Le détective prêta l'oreille, écouta quelques secondes, puis me dit « Oh, bien, nous pouvons aller sans crainte. Vous avez toujours votre boîte. »« Je l'ai. Eh bien, descendons. » L'escalier dans lequel nous nous engageâmes était celui d'une de ces vieilles maisons de Passy qu'on avait essayé d'aménager autant que possible selon le confort moderne. Cet escalier de service avait été certainement ajouté depuis quelques années seulement quand on y installa le gaz et l'électricité pour lutter avec les nouvelles bâtisses écrasant de leur masse les anciens jolis jardins de ce coin qui jadis fut la campagne des Parisiens. Peu après, nous nous engagions dans le couloir au bout duquel s'ouvrait la loge de concierge. Sur le pas de sa porte, le concierge se tenait, fumant une pipe. Je saisis un coup d'œil échangé entre lui et Martin Humain, et je compris aussitôt que cet homme faisait partie du personnel de mon guide dans cette équipée. Alors, ça va le gaz? Demanda le concierge. Ça commence, répondit Martin Humain. Mais il va falloir souffler ferme. Oui, il y a de l'eau dans les tuyaux. Tout le monde se plaint, surtout de ce côté. C'est de là que ça doit venir. Et le concierge indiquait du doigt un des points de la rue. Où allons voir? Dit Martin Humain. Nous voici dans la rue, mon ami et moi, absolument comme deux paisibles gaziers, en quête du coffret dans lequel il fallait souffler. Je ne reconnaissais pas cette rue. Nous descendîmes ainsi la rue, puis nous nous engageâmes dans une seconde rue que celle-ci coupait. Alors je m'y retrouvais. Cette rue était celle par laquelle nous étions venus tout à l'heure. Donc la maison de Martin Dumas avait plusieurs issues, ou plutôt, de l'atelier, on pouvait passer par un autre chemin. « Attention, me dit Martin Dumas, soyons gaziers pour tout le monde. » « Ça y est, bon, et traversons la rue. » Nous voilà sur le trottoir opposé. Un coffret de gaz s'y trouvait. Martin Dumas, défait le pliant, s'assoit dessus. Il me prend ma boîte, l'ouvre, en tire des clés et fait jouer la petite plaque de fonte qui sert de porte au coffret de gaz. Il amorça le bout du tuyau de caoutchouc qui pendait au bec du soufflet dans un des trous du coffret avec, selon son habitude, une conscience extrême. On eût vraiment dit que cet homme n'avait jamais fait autre chose de sa vie. Alors il me passa le soufflet et me dit « Tenez, mon cher, asseyez-vous sur le pliant et manœuvrez le soufflet. Mais tout en soufflant, tournez vos regards un peu plus bas, dans la rue à gauche. « Ah oui, je vois, notre homme. Mais lui-même, il a l'air quelque peu inquiet, contrarié. » En effet, il ne trouve pas ce qu'il voudrait. Il ne voit pas venir ce qu'il attend. » Martin Dumas murmura, avec un pli au milieu du front qui rapprochait ses deux sourcils froncés. « Dans tout ceci, ce qui m'inquiète, ce qui me préoccupe, c'est cette surveillance dont je suis l'objet, cet espionnage qui m'entoure, car on ne peut plus douter à présent, je suis filé. » Oui, c'est exact. Que nous arrivions à déjouer cette filature, ce sera facile, je l'espère. Mais je vous le disais, ce qui me cause un étonnement ou une sérieuse anxiété, c'est qu'on soit parvenu à découvrir cette rue, à savoir que par ici j'ai un refuge, une retraite. Je croyais la chose absolument secrète. Tout en parlant, il s'était assis sur ses talons, appuyant le dos au mur, et il allumait une cigarette. Et Serge me disait qu'en nous voyant ainsi paisibles, soufflant dans le tuyau de gaz et grillant des cigarettes, personne, même les gens qui nous cherchaient, ne pouvait percer le mystère que cachaient notre blouse bleue et notre casquette. Nul ne pouvait supposer ce que faisaient ces deux braves hommes en voyant avec tant de conscience de l'air dans le branchement de gaz. Tout à coup, Martin Dumas tressaillit et fit entendre à mi-voix une exclamation d'étonnement. « Oh, diable du nouveau !» Je regardais aussi sous la visière de ma casquette. Devant l'homme brun, se trouvant encore sur le trottoir, un autre homme qui montait la rue s'arrêta. « Vous le reconnaissez ?» me demanda Martin Dumas. « Parfaitement, c'est l'homme de la rue d'Amsterdam. »« C'est lui, c'est bien lui, regardez !» Il s'arrête devant celui qui était en faction et lui demande du feu. « Oui, je vois. Oh, jamais un gentleman n'avise un autre gentleman pour lui demander du feu. Donc c'est une manœuvre, oh, d'ailleurs assez habile pour parler à quelqu'un sans donner l'éveil. Bon, tiens, voilà un autre homme qui a allumé sa cigarette. Il salue le gentleman obligeant et reprend sa route, ayant appris ce qu'il venait demander à l'homme en faction. Ah oui, ça doit être cela, en effet. Et l'autre est parti, sans doute peu content, quoique fumant sa cigarette. Il a dû laisser à celui-ci un nouveau mot d'ordre, une nouvelle consigne. Comme Martin Dumas parlait, l'homme qui se trouvait sur le trottoir, ayant l'air d'attendre simplement quelqu'un, faisant les 100 pas, les mains derrière le dos, d'une allure tranquille, jeta une dernière fois un coup d'œil en arrière, puis il fouilla dans la poche de son gilet. Qu'est-ce qu'il fait? Se demanda Martin Dumas. L'homme s'était approché du mur de la maison qui se trouvait précisément en face de celle de Martin Dumas, et sur le mur, à même, il gratta à plusieurs coups une allumette. Puis il alluma une nouvelle cigarette. Martin Dumas, qui ne perdait rien de cette scène rapide, eut un sourire. Oh, ces gens-là sont malins, fit-il, mais leur ruse laisse trop voir la ficelle. Ah, je n'ai pas bien compris leur tactique. Bien clair, cependant, je leur ai échappé. Mais celui qui me filait pour se retrouver dans la souricière qu'il établira demain ou ce soir, pour aussi faciliter la tâche d'un collègue, a besoin de marquer la place où, pour la dernière fois, il a pu m'apercevoir. Oui, très juste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Prendre le numéro des maisons n'est pas suffisant. Il faut un point de repère plus complet. Et notre homme, en ayant l'air de gratter une allumette sur un mur, ce qu'également ne fait pour ainsi dire jamais un gentleman, tout en ayant l'air de gratter une allumette au mur, dis-je, notre homme vient de faire sur ce mur une marque que nous allons trouver dans un moment. Martin Dumas fit encore manœuvrer mon soufflet le temps qu'il jugea nécessaire pour permettre au mystérieux espion de s'éloigner. Puis il prit ma place, remit le coffret à gaz en ordre et le referma. Voilà des abonnés, fit-il en souriant, qui ne pourront pas se plaindre de la compagnie. Nous rangeâmes les outils dans ma boîte que je suspendis à mon épaule gauche. Martin Dumas, sans hâte, prit son pliant, ramassa son soufflet qu'il mit sur son épaule droite, et nous voilà en route sans nous presser. Nous franchissons la chaussée pour gagner le trottoir, comme si nous allions souffler dans de nouveaux tuyaux engorgés d'air. Quelques pas encore et Martin Dumas m'arrêtait par le bras. C'est là, fit-il, ne vous retournez pas encore. Ayons l'air de regarder la maison d'en face. C'est bien ce que je pensais, mon cher Courville, je ne me trompais pas. Il y a sur le mur un signe. Une croix, deux points. Une croix, deux points, un X. Oui, vous allez les voir, tracés à la craie à hauteur du coude. Vous pouvez vous retourner maintenant. En effet, il y avait sur le mur, tracé fortement sur le fond gris, les signes qu'annonçait Martin Dumas. Ces signes étaient ainsi disposés. Deux barres se coupant en croix Saint-André et deux points en vis-à-vis entre les deux branches. X. Effaçons-les. Vous allez voir, mon cher Courteville, comment on efface sans servir des mains, sans donner l'éveil. Martin Dumas alors me désigna du doigt quelque chose aux étages de la maison voisine. Pour mieux me montrer ce qu'il me disait d'apercevoir et qui n'existait pas, Il se penchait en arrière et frottait son épaule, son bras contre le mur, effaçait avec la manche de sa côte bleue les signes mystérieux. « Ça y est, dit-il, c'est parti. S'ils ont vraiment besoin de ces signes pour s'y retrouver dans leur filature, ce sera un travail à refaire. » La croix et les deux points avaient en effet absolument disparu. « Maintenant, me dit Martin Dumas en riant, que nous avons travaillé comme de braves et consciencieux gaziers. Allez, soyons gaziers jusqu'au bout, allons boire un verre chez le mastroquet voisin. » On peut s'imaginer ce que souffler dans les tuyaux donne soif.